Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous lisons les méditations métaphysiques de Descartes. Tout commence par une libre décision, celle d'un homme qui décide sérieusement, une fois en sa vie, de se défaire de ses opinions. Semel inuita, dit le latin. En première personne, donc, j'ai pris la libre résolution de douter de toute chose et, une fois en ma vie, de chercher la vérité. Méthodiquement, j'ai douté de tout ce que mes sens m'ont donné. J'ai douté des vérités mathématiques, parce que je ne sais pour l'instant pas encore en vérité ce qu'est la raison humaine et d'où vient la raison humaine ou l'esprit humain. J'ai douté de l'existence du monde hors de moi, avec l'argument du rêve. Alors, où en suis-je? Eh bien, je suis comparable à quelqu'un qui tombe au fond de l'eau, au fond d'une eau très profonde. C'est là l'image que Descartes emploie au début de la seconde méditation. Je suis donc comparable à quelqu'un qui est en train de se noyer. Quelqu'un qui ne touche pas le fond, y a-t-il un fond? Mais quelqu'un qui ne peut pas remonter à la surface. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai pris la résolution de me mettre à l'écart, dans la solitude, de me donner du temps libre pour examiner toute chose, selon l'idée de la vérité. Où en suis-je? Eh bien, j'en suis à ceci, qu'il se peut que tout soit faux. Il se peut que la rose ne soit pas rouge quand je la crois rouge. Mais pire, il se peut qu'il n'y ait pas de rose hors de moi, et que le rose ne soit qu'un produit de mon imagination. Il se peut qu'il n'y ait pas de monde hors de moi. Je me retrouve donc seul avec moi-même, seul avec mes pensées. Je me retrouve dans ce qui s'appelle en philosophie l'immanence. Voilà. Nous découvrons ce qu'est la décision qui fait d'un homme un philosophe, chercher la vérité sérieusement une fois dans sa vie, et nous découvrons la manière dont Descartes conduit ce chemin, et nous découvrons l'abîme devant lequel nous nous trouvons maintenant. Le titre de la seconde méditation est tout à fait précieux et nous guidera. Ce titre, c'est « De la nature de l'esprit humain » et qu'il est mieux connu que le corps. Mieux connu que le corps, c'est ce que dit le latin, qui je rappelle que Descartes a écrit en latin. Il faut prendre au sérieux cette formule. Que veut dire Descartes quand il dit qu'il est mieux connu que le corps? L'ordre naïf des évidences nous fait croire que le monde existe, qu'il est là, qu'il est stable, qu'il est là depuis des milliards d'années et pour encore des milliards d'années, tandis que nous, nous sommes là pour quelques années seulement. Donc l'ordre naïf des évidences, c'est il y a le monde, un monde stable, permanent, et nous, passagers, transitoires dans ce monde. La suite, l'ordre naïf des évidences encore, nous fait croire que nous connaissons mieux le corps que l'esprit. Et nous voyons Descartes ici détruire tous ces préjugés, détruire toutes ces évidences. Puisque le chemin du doute me fait maintenant douter qu'il y a un monde hors de moi. Ce monde qui me semblait si stable, si permanent, peut-être même éternel, voici que maintenant il se peut qu'il ne soit pas. Ensuite, mon corps, que je croyais mieux connaître que moi-même, que mon âme, voici que le titre de la seconde méditation m'invite à découvrir qu'il est moins connu que l'âme, ou que l'âme est mieux connue que le corps. Mais comment connaîtrais-je mon âme? N'allons pas si vite. À quel point en suis-je? J'ai douté de tout. Il se peut que tout soit faux. Il se peut qu'il n'y ait rien hors de moi. Je suis donc seul avec mes pensées. Il se peut, en toute rigueur, qu'il n'y ait rien. Qu'il n'y ait rien du tout dans le monde. Mais, c'est ici que le doute me conduit à de l'indubitable. Parce que, si jamais, par hypothèse, il n'y avait rien, moi qui me pose la question, moi qui doute de tout, je ne pourrais pas être rien. Il y a donc au moins quelque chose. Ce quelque chose, c'est je. C'est moi qui ai pris la décision de douter, c'est moi qui ai révoqué en doute toutes les choses qui me sont apparues comme douteuses. Dans un premier temps, donc, ce que je découvre, c'est un quelque chose, encore innommé, innommable. Ce quelque chose, c'est ma pensée, le chemin que j'ai fait, la décision que j'ai prise, c'est moi. Il me faut donc faire un pas de plus pour mieux découvrir ce qui est indubitable. Ce qui est indubitable, ce n'est pas seulement un quelque chose, mais c'est un moi. comme le note Descartes ici, alors même que je serais dans l'illusion totale, alors même qu'un malin génie me tiendrait entièrement sous son pouvoir et me tiendrait entièrement dans l'illusion, je cite Descartes, « il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. Il se peut que tout soit illusoire, que je n'ai pas de corps, qu'il n'y ait pas de monde hors de moi, mais il y a quelque chose qui ne peut pas être illusoire, quelque chose qui est indubitable, c'est que je suis celui qui pense cela. Et donc, ce qui est indubitable, c'est que moi, je suis. » La première vérité à laquelle j'arrive avec Descartes, dans cette seconde méditation, en latin, c'est « ego sum, ego existo ». Moi, je suis, moi, j'existe. Cela fait écho au très célèbre « cogito ergo sum »,« je pense, donc je suis », exposé par Descartes dans le discours de la méthode. Que signifie Descartes ? Sans rentrer dans toutes les considérations, toutes les finesses de la chose, nous pouvons retenir les points principaux. Un des points les plus importants, c'est déjà ce que Descartes écrit, « ego sum ». Il faut noter ici que cette parole n'est pas du tout insignifiante. Nous l'avons rencontrée sous la plume de saint Augustin. Lorsque, au livre 1 des Confessions, Augustin note que lui aussi il l'est, ou en première personne, « et ego sum », « moi aussi, je suis ». Et nous savons que chez Augustin, elle signifie la découverte du fait que l'homme étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut dire à son tour et à sa manière « ego sum » ou « et ego sum »,« moi aussi, je suis ». Pourquoi ? Parce que ce qu'Augustin découvre et que retrouve Descartes ici, c'est ce qu'Augustin médite, c'est la révélation par Dieu de son nom à Moïse au mont Sinaï, en Exode 3.14. En latin, c'est « ego sum qui sum »,« moi, je suis qui je suis ». Il y a donc ici un point capital, c'est que la première vérité à laquelle j'arrive, si je suis le chemin cartésien, c'est « moi, je suis ». Et il y a là comme un écho du « moi, je suis » qui est, dans la traduction latine que suit Descartes encore, cela est le nom de Dieu, « moi, je suis ». Première vérité, « moi, je suis ». Moi, je suis, je ne suis pas n'importe quoi, tout ce que je sais de moi, c'est que je suis celui qui a pris la résolution de douter, celui qui a douté de toute chose, et qui a fini ici, dans un premier temps, par se saisir soi-même comme étant celui qui pense. Premier point, par conséquent, je sais que je suis. Maintenant, que me cherche-t-il, que me reste-t-il à chercher ? Il me reste à chercher ce que je suis, ou plutôt, qui donc je suis. Et cela fait l'objet de cette deuxième journée, c'est-à-dire de cette deuxième méditation. Quelle sera la méthode ? Comment pourrais-je trouver ce que je suis et qui je suis ? La méthode qu'indique Descartes est compréhensible. Il s'agit de séparer tout ce qui est moi d'avec ce qui n'est pas moi, ou plutôt de séparer ce qui n'est pas moi d'avec l'ego, d'avec le moi. Alors, je ne reprends pas le détail de l'argumentation, j'en retiens les points principaux. En examinant cela, je m'aperçois qu'il y a une seule chose qui est inséparable de moi, c'est la pensée. Et la certitude à laquelle je parviens ici, c'est donc bel et bien que je suis ce qui pense. Je suis celui qui pense. Il se peut, par hypothèse, que je n'ai pas de corps, qu'il n'y ait pas d'univers hors de moi, mais il y a une chose qui est inséparable de moi, c'est la pensée et l'exercice de la pensée. Voilà donc une vérité nouvelle qui surgit, et cette vérité, c'est que je suis ce qui pense, je suis celui qui pense. Il me faut simplement aller plus avant et me demander ce que cela veut dire « penser ». Et là, nous découvrons encore quelque chose d'étonnant chez Descartes, c'est ceci. Qu'est-ce que je suis ? Eh bien, je suis ce qui pense, et ce qui pense, c'est celui qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent, comme le dit Descartes dans la seconde méditation. Donc, ce que j'ai expérimenté depuis le commencement de mon cheminement, justement, c'est le doute. Mon premier acte a été un acte de douter, un acte libre. J'ai douté de toute chose. J'ai décidé de douter de toute chose. Et ce que je sais en regardant en arrière, c'est justement que je suis bel et bien capable de douter. Capable de douter, premier point. Ensuite, ce que j'ai expérimenté aussi, c'est que je suis capable de comprendre, capable de connaître. Mais pas seulement, j'ai expérimenté aussi que je suis capable d'affirmer, de nier, de vouloir, de ne pas vouloir. Et enfin, capable d'imagination et capable de sensation. Je ne sais pas s'il y a un monde hors de moi, mais je sais que le moi, ou que inhérent au moi, se tient la sensation. Voilà donc ce que je suis. Et Descartes le nomme ici une res cogitans en latin, une chose qui pense. Si nous regardons bien, c'est tout à fait étonnant. Ça veut dire que si j'élimine tout ce qui n'est pas moi, que reste-t-il du moi, de moi ? Il reste la pensée, et la pensée veut dire maintenant douter, intellection, affirmation, négation, volonté, ne pas vouloir, et aussi tout ce qui relève de l'imagination, de la sensation, du sentiment et des émotions. Ce que Descartes découvre ici, c'est que tout cela se tient dans l'immanence. Et nous pouvons bel et bien parler d'immanence, d'autant plus que c'est cette immanence qui sera interrogée, qu'il faudra interroger par la suite. Voilà donc ce que je suis une chose qui pense, et selon toutes les modalités de la pensée. À partir de là, le chemin consistera à me distinguer de ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire à distinguer le moi d'avec la chose. Et c'est ce chemin que Descartes ouvre dans la seconde méditation, notamment avec l'examen du célèbre morceau de cire. Alors, quelle est la finalité de l'examen du morceau de cire ? Eh bien, d'abord, rappelons l'expérience. Je prends un morceau de cire, je suis devant la cheminée, je prends un morceau de cire, je l'approche du feu, et voilà que ce morceau de cire qui avait certaines qualités sensibles, les perd. Il était dur, il est devenu mou, il était froid, il est devenu chaud, il fond, il a perdu sa figure géométrique. Et je me demande donc, maintenant, quelle est la nature du corps ? Quelle est la nature du corps ? L'examen me conduit, ou conduit plutôt Descartes, à retenir l'étendue, comme il l'appelle, c'est-à-dire l'espace. Qu'est-ce qu'un corps ? Un corps, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'espace. Un corps a des propriétés géométriques avant tout, ce qui veut dire en langage cartésien que l'attribut principal du corps, c'est l'étendue. Mais l'attribut principal de l'âme, c'est la pensée. Regardons maintenant les deux en les mettant en regard. L'âme et le corps ici, c'est n'importe quel corps, c'est le corps en général. Descartes souligne que l'âme et le corps sont non seulement deux entités diverses, mais encore deux entités contraires. Et il y a là quelque chose de précieux. Cela veut dire que, si nous regardons bien la démarche que nous avons faite jusqu'à présent, et si nous nous rappelons le titre, les choses deviennent plus claires. Le titre de la seconde méditation, c'est indique que l'âme est mieux connue que le corps. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'âme est mieux connue que le corps parce que l'âme, c'est ce qui peut douter de l'existence même du corps, et c'est ce qui peut, à l'occasion de l'examen d'un morceau de cire, découvrir la nature du corps. Mais dans l'ordre qui a été le nôtre, l'âme a d'abord découvert sa propre nature en découvrant qu'elle était puissance de la pensée. Cela veut dire donc que ce qui est premier, c'est la connaissance de l'âme par elle-même. L'âme se découvre comme pensée, puissance de pensée, et quand elle se tourne vers des corps, par exemple vers un morceau de cire, l'âme humaine découvre qu'un morceau de cire, c'est quelque chose de tout autre que ce qu'elle est. Elle découvre qu'elle-même, elle est capable de s'examiner en revenant à elle-même. Elle découvre qu'elle est liberté. Elle découvre qu'un corps n'a aucune propriété, rien de commun avec l'âme. Un corps, c'est de l'espace. Et nous avons donc là une nouvelle métaphysique, une métaphysique du corps, une métaphysique de l'âme et de leur relation. Le corps, c'est de l'espace. L'âme est liberté et l'âme est pensée. Et cela rebondira dans la troisième méditation avec la découverte de Dieu.
Sí.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Approfondissons notre recherche. Dans la vie quotidienne, nous employons des mots sans y penser, sans les penser. Par exemple, le mot de pensée, le mot de raison, esprit. Tous ces mots sont des mots dont la signification m'était auparavant inconnue. Je viens de citer Descartes lui-même dans la deuxième méditation. Maintenant, j'ai décidé de douter de tout. J'ai découvert la première chose indubitable. Cette première chose indubitable, c'est moi. C'est moi en tant que puissance de pensée et en tant que liberté. Toujours ce fil conducteur de la liberté qui est essentiel à la métaphysique moderne et à la pensée chrétienne. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche la vérité. Comment la cherchais-je ? En doutant de toute chose. Donc par la voie qui s'appelle le scepticisme. Qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert que je suis. Ego sum, moi, je suis. Ce moi n'est pas du tout insignifiant. Ce moi est même d'ailleurs, la plupart du temps, oublié ou pas traduit. Si nous lisons la traduction de Luynes, qui est contemporaine de Descartes, la traduction, le ego sum, ego existo, est traduit par « je suis, j'existe ». Or, le latin dit « ego sum », moi, je suis. Donc, ce moi, ego ille, comme l'appelle, comme le nomme Descartes, comme le souligne Descartes, ce moi-ci, qu'est-ce qu'il signifie ? Qu'est-ce que je veux dire quand je dis moi ? Voilà, nous sommes, ou quand je dis je. Voilà ce qu'il me faut davantage explorer. J'ai pris la décision de douter de tout, je me suis mis à l'écart, tout seul, je me suis donné du temps libre pour examiner toute opinion, toute chose, en pensant. J'ai découvert que je suis. J'ai découvert que je ne suis rien d'autre que puissance de pensée, rien d'autre que capacité de douter de toute chose, capacité de comprendre, d'affirmer, de nier, ce qui suppose donc non seulement un entendement ou une raison, mais encore une volonté. Parce que quand je nie, quand j'affirme, quand je veux ou que je ne veux pas, la volonté est entrée en scène avec mon entendement ou avec ma raison. Et donc, pour penser, il me faut bien tenir ensemble l'intelligence, l'entendement, dans le langage de Descartes, et la volonté. Explorons maintenant ce que signifie cette chose qui pense. Et demandons-nous pourquoi apparaît ici l'imagination et pourquoi apparaît le verbe sentir. Parce que si, par le doute, j'ai révoqué l'existence du monde, j'ai également révoqué l'existence de mon corps. Il se peut donc que je n'ai pas de corps, il se peut donc que le monde hors de moi ne soit point. Je note au passage que ce n'est pas là une affirmation. Je n'affirme pas qu'il n'y a pas de monde, je ne nie pas le monde, mais j'en doute. Donc je suis précisément dans le premier point. Je doute qu'il y ait cela. Mais si je doute qu'il y ait un monde, s'il se peut qu'il n'y ait pas de monde hors de moi et que je n'ai pas de corps, on dira alors qu'il n'y a pas d'imagination et qu'il n'y a pas de sensation. Mais c'est là que Descartes est profond et qu'il découvre quelque chose promis à une grande postérité. C'est qu'il découvre que la chose telle qu'elle est en moi n'est pas la chose telle qu'elle est en elle-même. Il y a la rose hors de moi, ou avec sa couleur, ses parfums, etc. Et il y a maintenant la rose telle que je la sens dans l'immanence. Et naïvement, nous identifions l'un avec l'autre, l'une avec l'autre, mais maintenant, la réflexion du philosophe nous fait découvrir que, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de rose hors de moi, il y a moi qui sens la rose en moi-même, dans l'immanence, dans la solitude. Cela peut s'appeler donc imagination, souvenir, etc. Mais cela veut dire pour Descartes que la couleur de la rose n'est pas... Donc, eh bien, il y a bien quelque chose de physique à quoi correspond la couleur de la rose en moi, mais quand je considère la couleur de la rose en moi, la couleur de la rose en moi n'est pas une modification de la rose, mais une modification de mon âme. C'est une manière de sentir et d'être affecté de mon âme. Et je suis bel et bien dans l'immanence. Tout a bien commencé par une libre décision de se retirer du monde, de se retrouver seul avec soi-même en examinant mes pensées. Je suis seul avec moi-même et ce qu'il me reste, ce sont mes pensées. Des couleurs, des souvenirs de couleurs, d'odeurs, de sons, de touchers, etc. Et bien sûr, toutes les opinions qui sont les miennes. La naïveté ou l'évidence naïve, c'est qu'il y a un monde hors de moi, qu'il y a peut-être moi et peut-être un Dieu hors de moi ou hors du monde. Nous voyons que tout cela est sérieusement ébranlé, sérieusement mis en difficulté. Et nous voyons que, au point où nous en sommes ici, la seule certitude, c'est qu'il y a moi avec moi-même, moi avec mes pensées, moi avec mes idées, comme dira Diderot de manière un peu ironique après. Il y a donc moi seul avec moi-même, avec mes pensées. Et c'est en examinant ces pensées qu'il me faudra voir si je peux sortir de moi. Ayant pris la libre décision de douter de toute chose, je me suis comme retiré en moi-même, et on pourrait dire comme enfermé en moi-même, le problème sera bel et bien de savoir comment je pourrais sortir et si je pourrais sortir de moi-même. L'examen du morceau de cire m'aura permis, en cheminant, de découvrir la nature du corps, ou plutôt l'attribut essentiel du corps qui est l'étendue. Et, nous l'avons vu, cela m'aura permis de confirmer le titre de la seconde méditation, l'âme est mieux connue que le corps, parce que l'âme n'a pas à sortir d'elle-même pour se connaître. L'âme, pour se connaître, doit revenir à elle-même, se convertir à soi, en latin c'est la conversio, l'âme doit revenir à elle-même pour se sentir elle-même et pour explorer toutes ses puissances. Elle n'a donc pas à sortir d'elle-même. En revanche, il faudra bien, pour connaître un corps, la nature d'un corps, ou les attributs et les propriétés d'un corps, que l'âme sorte d'elle-même. L'âme se découvre comme puissance de pensée, comme ceux qui pensent, et elle découvre hors d'elle quelque chose qui est de l'espace et qui est non seulement hors d'elle, mais encore le contraire d'elle-même.